Bienvenue au Petit Caractère, le balado de options consommateurs qui pose un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Je m'appelle Marianne Spear, je suis votre animatrice et aujourd'hui je suis en compagnie d'un nouvel intervenant à options consommateurs, Carlos Castiblanco. Allô Carlos?
Salut, ça va bien?
Oui, merci toi.
Oui, ça va bien, merci beaucoup.
Donc toi, tu es économiste et analyste, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est bien ça.
C'est un bel ajout à l'équipe d'options consommateurs.
Oui.
Fait qu'on est l'épisode 3 de la saison 4, mais déjà, c'est la deuxième fois qu'on parle de nourriture. La nourriture, c'est mon langage de l'amour. Mais autre que ça, c'est aussi vraiment un sujet d'actualité. Les prix augmentent dans les deux dernières années, c'est fou. Puis toi, c'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui, l'inflation alimentaire.
Oui, exactement. On va parler un peu de l'inflation alimentaire. On va regarder un peu qu'est-ce qui est derrière les numéros. Les chiffres en général, on va un peu étudier ça. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être commencer par une petite définition vite de qu'est-ce que c'est l'inflation.
Ouais, moi, ce que je me disais, parce que tu nous as fait un beau document de préparation, c'est qu'on peut commencer, comme tu viens de dire, avec un survol, le concept de l'inflation, après un peu les causes de l'inflation alimentaire qu'on vit en ce moment, tout ce qui s'est passé dans l'époque. Puis, en terminant, j'ai vu que tu nous as mis les mesures pour combattre l'inflation qui sont en vigueur présentement et les recommandations.
Exactement.
Fait que les gens restent à l'écoute parce qu'à la fin, il y a les recommandations puis il y a les mesures qui sont déjà en cours. Super, donc je t'écoute.
Oui, donc là, on fait un petit survol vite de ce que c'est l'inflation. C'est vraiment la hausse persistante des prix du coût de la vie. Je pense que c'est très clair. Comment est-ce qu'on mesure ça? La Banque du Canada, c'est la banque centrale du pays, elle fait un panier avec certains items dont on consomme. Ils divisent tout en 7 items en général. C'est l'alimentation, le logement, dépenses courantes, entre autres. Ils font une pondération. Les gens, par exemple, ils disent en moyenne, les gens dépensent 30% dans le logement, 40% dans l'inflation. Ils établissent l'indice des prix des consommateurs.
OK.
Donc, avec cet indice-là, ils vont l'ancrer dans une année spécifique. On l'a en 2012 et on peut voir l'évolution des prix depuis l'année de base.
OK.
Donc, la Banque du Canada, comme j'avais déjà dit, c'est la banque centrale. Sa mission est vraiment de maintenir les prix à un niveau stable.
OK.
Eux, ils ont un taux cible. Le taux cible est le 2 % avec une fourchette entre 3 et 1 % Qu'est-ce que ça veut dire? La Banque centrale du Canada est confortable à que les prix augmentent entre 1 et 3 %
OK.
Ouais, je pense que c'est un taux super contrôlé. C'est normal que les prix augmentent avec le temps.
Oui.
Avec plus de demandes, les gens vont payer un petit peu plus pour le prix. Et ça permet aussi, si c'est contrôlé comme ça, de faire des prévisions de coûts de façon plus contrôlée.
Puis, est-ce que ça ressemble aux objectifs des autres banques centrales, des autres pays?
Oui, exactement. Okay. Tous les pays, les pays qui ont une banque centrale indépendante vont avoir un taux cible. Les pays développés sont aux alentours de 2-3 %. C'est un petit peu plus élevé pour les pays en voie de développement.
OK. Ça a quand même une logique. C'est en voie de développement, donc ça se peut.
Exactement. Il y a un petit peu plus d'encouragement pour faire de l'épargne ou c'est aussi du crédit qui est un petit peu plus volatile. Donc, il y a un taux de retour plus haut.
Je vois l'incitatif. Parfait.
Exactement. Et là, avec ces définitions, on peut aussi parler un petit peu des données d'aujourd'hui, de comment se trouve l'inflation. On n'a pas encore le taux d'inflation pour le mois de septembre, qui vient juste de finir.
Oui.
Mais on a encore l'information pour le mois de août. Donc, l'inflation en général se situe à 6,8% pour l'inflation alimentaire et l'inflation générale, elle est à 4%. Donc ça nous montre le changement entre août 2022 à août 2023. Mais si on regarde juste entre ce mois-ci et le mois dernier, on a eu une chute, en fait, des aliments, dans l'inflation alimentaire de moins 0,1%.
OK. Donc, de août 2022 à août 2023, il y a eu une inflation alimentaire de 6 quelques %.
Exactement.
Mais dans vraiment juste le dernier mois de août à septembre ou le mois juste avant août?
Exactement. Okay. De juillet à août.
Juillet, c'est ça. C'est juillet qui est avant août. Superbe. De juillet à août, là, il y a eu une réduction de l'inflation.
Exactement. Okay. Donc, il y a certains événements, on va parler de ça tantôt, qui ont causé une augmentation des prix dans la dernière année, mais on voit déjà que l'inflation commence à descendre. Dans plusieurs produits, on peut voir une descente. On peut voir le porc a déjà chuté de 6 % le dernier mois. Nous avons aussi une chute dans les pâtes alimentaires et les pains en général. Et ce que nous pouvons constaté, c'est que dans les trois derniers mois, l'inflation alimentaire se trouve en fait sous l'inflation générale.
OK. Donc, c'est en train de réduire.
Exactement. Okay. Donc, on a les événements de l'année passée qui ont causé que l'inflation, si on le regarde juste pendant un an, se trouve plus haut, 6,8 pour l'inflation alimentaire. Mais si on regarde mois par mois, elle est même négative.
OK. Mais on s'entend que même si l'inflation réduit, l'inflation qui a déjà été reste en place.
Exactement.
Ça veut pas dire que les prix reviennent à c'était à quoi il y a un an.
Exactement.
C'est juste que ça l'augmente moins rapidement ou... OK.
Exactement. On dirait plus que les prix se contrôlent. Ils sont en train de se stabiliser dans le niveau où ils se trouvent présentement.
OK. Puis est-ce que ça a du sens en tant qu'économiste, selon toi, que l'inflation soit un petit peu soit plus basse dans le dernier mois? Est-ce que ça a du sens avec les mesures que la Banque du Canada prend?
On va parler un peu, c'est une super bonne question parce qu'on va voir est-ce que la Banque centrale a vraiment du pouvoir sur l'inflation alimentaire.
OK.
Ça dépend.
OK.
Mais oui, ça fait du sens. Puis juste avant de passer aux causes puis toutes les raisons derrière l'événement, on peut aussi parler de quelque chose. Si on se compare avec les autres pays du G7, nous avons un taux d'inflation qui est élevé, mais c'est pas le plus élevé des pays. Nous avons l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont un taux d'inflation plus élevé que nous. Il n'y a que le Japon, qui est une économie très particulière, et la France qui a un taux plus bas que nous.
OK. Fait que ça, c'est vraiment pour l'inflation alimentaire.
Pour l'inflation en général.
Pour l'inflation en général. En général, exactement. OK, merci. Excuse-moi, des fois, il y a l'inflation générale, l'inflation alimentaire. OK. Donc, dans l'ensemble, il y a des pays qui ont une inflation plus forte que nous dans le G7.
Exactement.
Italie, Royaume-Uni, Allemagne et France, Japon, ils ont une inflation plus faible que nous présentement.
Exactement, oui.
Okay. Ça m'étonne, la France.
Oui, oui, oui. On va parler de eux tantôt. Cool. Ils ont fait une mesure similaire de ce que le gouvernement avait fait. Mais avant d'aller là-bas, on va parler maintenant des causes de l'inflation. Puis il y en a une qui est très importante. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment le changement climatique. Les épisodes climatiques hors du commun vont avoir un impact sur la production. Et s'il y a moins de production, les prix vont augmenter naturellement, évidemment. Donc, on ne va pas trop se tarder dans les événements, mais on peut, par exemple, voir qu'il y a eu des inondations dans la vallée des Salinas. Nous, on importe beaucoup d'aliments des États-Unis, surtout en hiver, puis c'est arrivé en janvier 2023. Voilà pourquoi, par exemple, les prix ont chuté ces derniers mois, mais ils étaient beaucoup plus élevés si on regarde toute l'année.
Puis ça affectait quel produit exactement?
Ça affecte brocolis, fraises, laitues, choux-fleurs, entre autres, en général.
OK. Hey, c'est fou de voir le lien exact. Ouais. Tu sais, aux nouvelles ou en général, nos conversations, c'est comment on dirait là, les changements climatiques, là, les prix, tu sais, ça doit être relié ou c'est juste une mauvaise passe. Mm-hmm. C'est très relié, c'est très décrit clairement ici. Là.
Okay. C'est super. Et j'en ai mis quelques autres. On va parler peut-être d'un autre rapidement. On peut aussi... Il y a eu des sécheresses au nord de l'Afrique et au sud de l'Europe aussi. Ça a causé un problème pour nous. Le blé, on va parler du blé tantôt aussi avec la guerre en Ukraine. Et les olives, ça nous a touché un peu, oui.
OK.
Donc, à part ça...
On entend de plus en plus les économistes parler d'environnement.
Hein. Exactement.
Les livres qui sortent, les articles qui sortent, c'est vraiment très relié. Même les indices déjà utilisés commencent à prendre en compte de plus en plus des aspects environnementaux.
Exactement. Il faut vraiment en tenir en compte parce que ça...
Le PIB vert, là, entre
le
autres.
Le PIB vert.
Peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode. Ce serait le
fun. C'est une super bonne idée. On va le garder pour après. Mais c'est vrai, il faut déjà considérer ça. Donc, à part les événements climatiques, nous avons aussi les événements géopolitiques. Malheureusement, nous avons une guerre en Ukraine. Les gens parlent beaucoup, ça touche les prix, mais qu'est-ce que ça touche les prix spécifiquement? Donc, l'Ukraine est un producteur très important pour le monde de beaucoup de produits, de blé, maïs, soja. Certaines huiles comestibles proviennent de là-bas. Et en plus, ils sont aussi des producteurs très forts de fertilisants, ammoniac et des engrais chimiques. Avec une guerre, c'est difficile de produire ou sortir les produits. Ça cause beaucoup, beaucoup de problèmes. Chez nous, ça cause aussi des problèmes en Afrique. Beaucoup de pays africains dépendent de la production ukrainienne.
Okay.
Donc, c'est des gros événements. Puis même chez nous, nous avons un petit événement. On va en parler un peu après, mais c'est aussi la grève du porc en Colombie-Britannique.
Ah oui?
Oui, ça va nous causer des... En inflation alimentaire et en général, dans toute l'inflation, c'est l'entrée des
produits. C'est quoi la grève du porc?
On va en parler, c'est une très bonne question. Donc, en Colombie-Britannique, les employés du porc de la Colombie-Britannique, ils sont rentrés en grève parce que leurs conditions d'emploi n'étaient pas très bonnes.
OK.
c'est vraiment...
Excuse-moi, c'est parce qu'on parlait d'aliments. Fait que là, je pensais porc, P-O-R-C. Ah! Mais c'est porc, P-O-R-T. OK, non, c'est bon, P-O-R-T. Je vais avoir toute autre image.
Non, t'inquiète pas. Puis, c'est bon. En fait...
Ben, continue, oui.
Non, c'est une bonne façon de l'amener parce que de Chine proviennent certains aliments du porc, P-O-R-C.
OK.
Donc, même si on ne consomme pas... en grande quantité des aliments provenant de l'Asie, la Chine et la Thaïlande se trouvent quand même dans le top 10 des sources d'importation d'aliments pour le Canada.
Okay.
Donc, nous avons vu tout ça. Le dernier événement que je veux parler aussi, c'est la fluctuation des prix de l'essence, du pétrole. Ça, c'est pas de notre contrôle, ni du gouvernement, ni de la Banque centrale. C'est vraiment déterminé. C'est vendu sur le marché, en fait, avec l'indicateur WTI. Désolé. Et ça dépend aussi des productions des producteurs. Donc, est-ce que l'Arabie saoudite va produire plus ou moins? Ça va vraiment déterminer le prix de l'essence.
La Russie également.
Tous les pays qui sont des grands producteurs et qui ont un contrôle sur le marché. Le Venezuela,
Venezuela, oui.
Exactement.
OK.
Donc, je vais amener aussi une quatrième raison un peu. C'est vraiment la concentration que nous avons ici au Canada dans le marché des épiciers. Nous avons un oligopole composé de 5 compagnies qui contrôlent 76% du marché. Le groupe Loblaws, groupe Sobeys, groupe Metro, Costco et Walmart.
OK. Fait que c'est eux qui ont le plus de...
De part du marché, exactement, oui.
Merci.
Oui, exactement.
Part du marché. Hey, on parle de part aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, c'est comme si on parlait d'une tarte. Ouais. Vous voyez, le trois quarts, c'est vraiment juste 5 compagnies qui ont le contrôle. Mm. Comme ils ont autant de contrôle aussi, ils ont des ententes avec les fournisseurs. Donc, ils disent, est-ce que tu veux avoir, ils parlent avec un fournisseur, est-ce que vous voulez que vos produits soient dans nos étagères qui représentent 28% des consommateurs?
C'est ça.
Donnez-nous des prix plus favorables qu'à la concurrence.
Mm.
Ça, c'est un des problèmes, évidemment. Le bureau de la concurrence, lui, qui est en charge de tous ces problèmes-là, ils ont fait aussi une étude. Et dans cette étude, ils ont demandé aux Canadiens, vous pouvez répondre plusieurs fois, les pourcentages ne vont pas faire de sens trop, mais où est-ce que les Canadiens font leur épicerie?
Ouais.
Donc, nous voyons la plupart vraiment vont au groupe Loblaws, au Québec, ça veut dire
Provigo. C'est 49% là, que
exactement,
je vois.
Exactement, okay. La moitié des gens ont répondu qu'ils allaient à Provigo. 28, IGA, Walmart 23, Metro 22 et Costco 18.
Hey, donc, Walmart ont vraiment su se positionner dans le marché des épiceries. Oui. C'est quand même un nouveau joueur, ça.
C'est un nouveau joueur, c'est un joueur international, mais ils ont vraiment réussi à rentrer dans le marché. Et le problème avec le marché canadien, il est tellement concentré, il a tellement de petites ententes de ces compagnies avec les fournisseurs que c'est difficile pour une autre compagnie, c'est Walmart est vraiment une exception, de se positionner, de rentrer dans le marché canadien.
Puis Walmart était déjà énorme, ils ont juste comme ajouté une branche à leur arc, là, mais quelqu'un qui dit « Ah, je veux démarrer une épicerie de quartier », on n'est pas dans les rangs. Là.
Et même à ça, nous avons par exemple le cas de Target qui a essayé de rentrer au Canada.
C'est vrai.
Ils n'ont pas réussi non plus.
Ah, ouais,
ils
ont pas pu. Oui.
Ils avaient eu plein de problèmes aussi dans leur système d'approvisionnement, mais ils n'avaient pas pu faire aussi concurrence en prix. Ouais, nous avons ce petit problème-là.
Okay.
Cette concentration va causer certains comportements anti-concurrentiels, un peu prédateurs de ces compagnies. Nous n'allons pas nous attarder trop sur ça. Nous avons déjà eu plusieurs épisodes dans le...
Oui, bien, j'encouragerais peut-être les gens qui trouvent cet épisode-là intéressant de regarder le premier épisode de la saison 3 où est-ce qu'on parle de déflation, réduflation.
Réduflation, exactement, c'est des comportements. Et il y a un terme aussi un peu plus général pour décrire ces comportements. J'ai trouvé un peu cocasse. C'est avariceflation.
Oh.
C'est vraiment le fait de profiter un peu de l'augmentation de des prix et de faire des profits records. Nous parlons souvent des profits records des épiciers. C'est un peu un terme général pour décrire les petits comportements dont eux, ils font. L'inflation, etc.
OK. Exactement. Donc, ça, c'est les quatre causes de l'inflation alimentaire.
Exactement, oui, exactement. Donc, ce que nous pouvons voir aussi, la plupart sont hors de contrôle. Nous n'avons pas de contrôle, malheureusement. Oui, nous avons du contrôle, je veux clarifier ça, mais le gouvernement n'a pas une façon de juste arrêter les événements climatiques.
Ouais.
Y a certains problèmes dans la chaîne d'approvisionnement dont on n'a pas le contrôle non plus.
Ben non, c'est ça. Puis c'est gros une chaîne d'approvisionnement, là, même si on contrôle quelques petites choses, là, ça doit être un très faible pourcentage.
Si c'est dans un autre pays, si c'est dans un autre pays, on ne contrôle pas les prix de l'essence. Hors du contrôle.
Mm.
Et là, on va parler un petit peu plus, donc, des mesures qui ont été prises, évidemment, pour combattre ce problème.
OK.
Donc, on parlait tantôt de la Banque centrale et un peu de son rôle. Comment est-ce qu'elle joue son rôle exactement?
Ouais.
Ils ont un outil de politique, c'est le taux cible.
OK.
Le taux cible, c'est, ils disent aux banques commerciales, vous devez rendre votre taux d'intérêt à 5%.
OK. C'est le taux, le fameux taux directeur.
Exactement, taux directeur.
Alors, on a quand même du temps devant nous. Fait que, est-ce que tu te sentirais à l'aise de vraiment m'expliquer comment le taux directeur agit pour les banques à charte?
Oui, oui, ça va être, ça va faire plaisir. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment établir le taux, comme j'avais dit. Aujourd'hui, c'est 5%. Ça va être pour les rendements des obligations, soit des dettes, ou sinon, par exemple, dans les comptes d'épargne, les taux d'intérêt de ces comptes d'épargne-là dépendent aussi du taux cible. Donc, lorsque le taux d'intérêt est bas, le crédit est bas, les gens sont encouragés à dépenser de l'argent. Donc, on appelle ça, c'est une politique expansionniste monétaire.
Okay. Fait que ça l'encourage les dépenses, ça l'encourage la demande.
Exactement. Okay. Puis même, on peut dire que c'est le bon temps de, par exemple, acheter une voiture parce que je suis sûr que mon taux d'intérêt va être bas. Mm. Si c'est entre 1 et 2, 3 % ça va être correct, je peux faire mes dépenses avec ça.
Okay.
Si le taux d'intérêt maintenant devient plus haut, les obligations financières deviennent aussi plus chères si c'est des dettes. Fait que les gens vont essayer d'éviter d'acheter, de renouveler leur cuisine, par exemple, ou d'acheter une nouvelle voiture. Et c'est aussi un outil pour encourager l'épargne.
Okay.
Parce que maintenant, les rendements vont être à 5%, par exemple. Donc, même moi, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une offre de la Banque Tangerine. Ils ont un nouveau compte à 6%. La Banque centrale essaie vraiment d'encourager l'épargne à la place de...
Ouais, ben je dirais, j'ai fait un peu le tour des banques aussi parce que ça m'intéresse toutes, mais c'est toutes des taux là, assez élevés pour,
exactement, c'est
pour l'épargne garantie. Là.
Donc, la banque, ce qu'elle cherche, c'est un peu refroidir l'économie. Et refroidir la consommation et vraiment encourager les gens à épargner.
OK.
Pourquoi est-ce que ça ne marche pas du côté de l'inflation alimentaire?
Ouais.
Parce que je ne peux pas différer ma consommation d'aliments. Je ne peux pas le laisser pour après. Les gens ont besoin de consommer maintenant, mais ce taux-là va toucher les autres aspects de la chaîne.
Je comprends.
Exactement. C'est ça aussi qui cause une augmentation des prix.
OK. Fait que même s'il augmente le taux, ben ça fait réduire, ça peut faire réduire la demande pour certains biens, mais
exactement,
ça ne pourra pas faire réduire la demande alimentaire. Tu continues de devoir manger au même rythme que quand les taux étaient bas.
Exactement. même si malheureusement nous voyons beaucoup plus de gens avoir de la misère pour vraiment avoir de la nourriture, ne peut pas arrêter de manger de toute façon.
Non, c'est
exactement.
Ça. Fait que c'est vraiment leur seul outil. Parce que j'ai souvent eu des discussions, des gens qui me demandaient « Est-ce que c'est leur seul outil? » Puis j'étais comme « Ben, ce que je sais, oui. » Mais là, tu me confirmes que c'est l'outil principal.
C'est l'outil principal, exactement. Fait que même la Banque du Canada, elle-même, elle appelle l'inflation sous-jacente un peu. Et c'est vraiment l'inflation qui ne considère pas deux secteurs, l'alimentation et l'électricité. Exactement.
Parce que tu ne réduis pas non plus.
Exactement.
Ben, en très gros dernier recours.
Et l'électricité, c'est très réglementé. C'est très, très, très différent. Ça ne dépend pas des forces du marché. Donc, la Banque du Canada elle-même, elle est au courant qu'elle ne peut pas vraiment toucher à ça.
OK.
Donc, ce n'est pas la seule institution, évidemment, qui est en charge de notre bien-être. Nous avons aussi le gouvernement.
Oui.
donc, le gouvernement, ils ont réalisé certaines choses. Par exemple, le remboursement pour l'épicerie. Le gouvernement du Canada avait ça il n'y a pas longtemps.
Oui.
C'est une belle mesure. On pourrait dire que ça peut aider. Le problème, c'est que ça ne règle pas les problèmes de base, les problèmes structurels derrière l'inflation.
C'est ponctuel.
C'est ponctuel et c'est rapide. C'est très à court terme. Les gens ont besoin d'aide maintenant parce que l'épicerie est très chère. Oui. Mais est-ce que ça va faire que les prix vont se réduire au long terme? Pas vraiment. C'est un mécanisme qui marche lorsqu'il y a des crises, lorsque nous avons un problème urgent, mais ça ne va pas régler vraiment le problème derrière l'inflation alimentaire aussi.
Je comprends.
Nous avons aussi... le ministre Champagne, qui avait fait une petite rencontre, évidemment, avec les cinq...
L'oligopole.
Le fameux oligopole, exactement. Ils avaient parlé un peu d'un code de conduite, mais ils n'ont jamais clarifié quelles ententes ils avaient vraiment arrivé à faire.
Okay.
Ils n'ont jamais vraiment clarifié de quoi. Il n'y a pas longtemps, il est allé lui-même dire qu'il était très heureux d'avoir vu des rabais. Il avait vu dans...
OK. C'est très concret, ça.
Oui, il avait juste dit « Je suis très heureux, je vois déjà des avancements. » Mais c'est dur de prendre du crédit pour ça lorsque l'inflation est déjà entre le système de Val-d'Isère.
Je comprends.
Exactement.
Puis le ministre Champagne, c'est le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.
Exactement. Okay. Merci beaucoup de la clarification. C'est lui qui avait eu la rencontre avec le PDG.
OK.
De plus, le gouvernement aussi cherche, avec le projet de loi C-56, à réduire en général, ça s'appelle la loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable.
Oh, je ne connaissais pas cette loi-là.
Oui, c'est un projet de loi, ça ne fait pas longtemps.
Projet de loi.
Exactement, c'est un projet de loi. Ça touche le logement aussi, on ne va pas parler de ça pour l'instant parce que ça ne nous touche pas, mais ça touche aussi de donner de plus de pouvoir au Bureau de la concurrence. Le Bureau de la concurrence, c'est vraiment l'institut fédéral qui étudie l'état d'un marché. Est-ce que le marché est trop concentré? Ça veut dire, est-ce qu'il y a pas assez de joueurs? Est-ce que les prix sont trop rigides? Donc, est-ce que les prix bougent pas assez lorsqu'il y a un changement dans la demande?
Ils ont trop de pouvoir.
Exactement. Okay. Le Bureau de la concurrence canadien n'a pas trop de pouvoir. Il est assez limité en comparaison, par exemple, à son équivalent en Europe et même aux États-Unis.
Puis comment ça se fait?
Parce que le nôtre est un petit peu plus vieux. Et les lois sont un petit peu plus, je vais dire, archaïques.
OK. Fait que les lois lui donnent moins de pouvoir moins en tant que bureau de la concurrence.
Il y a un point de vue de seulement voir est-ce qu'un changement dans la structure d'un marché va toucher le bien-être des consommateurs, mais ça ne regarde pas plus est-ce qu'un changement dans le marché va causer des problèmes à long terme qui vont causer plus de fusion.
OK.
Exactement.
Fait qu'ils peuvent comme juste agir quand le problème est très là.
Exactement. Lorsque le problème est très là,
Très présent. Très présent. Pas très bien fait comme phrase, pardon. Mais ouais.
T'inquiète pas. Puis en plus, ils regardent aussi beaucoup les fusions horizontales. Horizontales, c'est par exemple, on est tous dans la... on est des épiciers. Acheter un épicier ou l'autre, eux, ils sont très bons à regarder ça, mais ils ne regardent pas les fusions verticales plutôt. Mm. Donc, l'approvisionnement, les transporteurs ou les fermes. Ça, c'est plutôt les intégrations verticales ou les comportements anti-concurrence verticaux.
OK, je comprends.
Exactement. Fait que pour l'instant, est-ce que nous faisons assez?
Il y a place à en faire plus.
Exactement.
Mais c'est plus les lois qui doivent changer, plein de choses. Mais pour l'instant, c'est ça qui est en place.
C'est ça qui est en place.
Le projet de loi, c'est quoi qui fait? Je pense que je t'ai coupé.
Non, c'est correct. Ils sont juste en train de donner plus de pouvoir au Bureau de la concurrence pour qu'ils puissent voir si le marché est vraiment concentré. Donc maintenant, le ministre Champagne, lui, pourrait demander au bureau de faire une étude, voir si l'étude est réalisable et lui donner... Il y a aussi une clause... du Bureau de la concurrence, qui est les gains en efficience. Les gains en efficience, ça veut dire que si l'industrie est capable de montrer qu'une fusion va rendre plus efficient le marché, le bureau ne peut pas bloquer cette fusion-là.
OK.
Mais cette fusion, cette clause est un peu abusée au Canada. Ça a permis beaucoup de fusions dernièrement, même dans le côté des télécoms. On sort un petit peu ici, là, mais dans le côté de télécom aussi, on a un problème de concentration très grand.
Okay.
Il n'y a pas longtemps, c'était Rogers qui a acheté Shaw. Ils ont utilisé cette clause pour pouvoir acheter.
Ah oui.
Mm-hmm, exactement.
Okay. Fait que le projet de loi tendrait à modifier tout ça.
Modifier tout ça, donner plus de pouvoir pour vraiment donner plus de concurrence, parce que c'est vraiment plus de concurrence qui va faire descendre les prix. Et de là, on doit un peu regarder le tout avec un regard un peu critique. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour que les Québécois et les Canadiens en payent moins?
Mm-hmm. Fait qu'on est rendu à tes recommandations, c'est ça?
Exactement.
Yeah, enfin!
Oui, on va
depuis
se rendre...
Depuis tantôt, je t'envoie des
petits. Exactement, là, c'est un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment? Okay.
C'est important de mettre la table. On peut pas juste commencer puis donner des recommandations puis dire qu'est-ce qu'on ferait, là.
Exactement. Là, on sait que la plupart des choses sont hors du contrôle du gouvernement, sauf ce qui est du côté de la concurrence.
Mm-hmm.
Et on sait aussi qu'il y a certaines mesures qui ont déjà été prises. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant pour vraiment nous attaquer au problème? Les discussions que nous avons, il faut les élargir. Nous devons inclure, et c'est déjà été fait en France, nous devons inclure les producteurs, soit les fermiers, évidemment, les transporteurs. Nous avons aussi des transporteurs on utilise beaucoup les camions. En général, nous devons parler avec tout le monde. Comment est-ce qu'on peut couper les coûts pour vraiment réduire les prix que les gens payent. La Banque du Canada, elle avait fait il n'y a pas longtemps une étude pour voir s'il y avait une connexion, une corrélation entre la hausse des prix et les profits des épiciers. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas une corrélation immédiate.
Oui, ben on avait fait un épisode aussi un petit peu là-dessus. Là, puis on avait reçu un expert qui nous avait dit que les profits plus élevés qui avaient été faits, c'était pas au niveau des aliments, c'était au niveau des autres offres de produits qu'il y a dans les épiceries, comme par exemple Provigo qui offre, tu sais, du linge, Joe Fresh, ouais, etc. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, je pense que c'est pas entièrement faux, parce que la plupart des choses, l'augmentation des prix, c'est surtout a été causée par l'augmentation des coûts qu'ils ont immédiatement transmis aux consommateurs.
Aux consommateurs.
Exactement. Okay. Donc, contrôler les dépenses va aussi permettre un peu de contrôler le tout.
Mm-hmm.
Les gens vont payer un petit peu moins, puis eux vont être en mesure aussi de peut-être avoir des profits plus réalistes aussi.
Oui, puis de peut-être encaisser un petit peu plus quand que la chaîne d'approvisionnement a des pressions.
Exactement.
Puis de pouvoir le régler vite, puis de ne pas juste faire comme « bon, ben, ça va être le consommateur qui va,
exactement,
va prendre le... »
Exactement. Eux, ils devaient être en mesure de pouvoir faire l'ajustement. Et tu as raison, le groupe Loblaws a déjà fait ça aussi. Dans le passé, ils ont gelé certains de leurs produits de leur propre marque. Donc, ils ont la capacité de pouvoir aider, de ne pas transmettre tous les coûts aux consommateurs. Il va falloir juste vraiment les encourager, vraiment s'asseoir avec tout le monde. Donc, nous avons ça pour premier. Deuxième, nous devons fortifier, évidemment, la chaîne d'approvisionnement. Depuis la COVID, on voit comment c'est de vulnérable.
Ouais.
Nous devons vraiment nous asseoir, voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité des
emplois.
Des emplois, exactement. Ouais. Pour ne pas avoir non plus à nouveau une grève au port de la Colombie-Britannique, qui est vraiment la porte pour le Canada.
OK. Exactement. La porte de tous les produits qu'on reçoit.
La plupart, évidemment. Tout ce qui vient de l'Asie,
ouais,
ça vient de là-bas. En général, nous devons vraiment faire beaucoup plus d'efforts pour nous assurer que la nourriture va arriver sans trop de problèmes et sans trop de surcharge.
Okay.
Même si on pense à ça, notre troisième aussi recommandation, c'est vraiment, nous devons appuyer la production locale.
Mm-hmm.
Il est important quand même d'avoir, en respectant évidemment tous nos compromis internationaux, c'est important pour nous de soutenir les producteurs de chez nous pour avoir quand même un certain degré d'indépendance alimentaire dans les produits qui sont clés, on va l'appeler comme ça.
Je comprends. Fait que quand on achète un produit qui est local, qui est un petit peu plus cher, au-delà de juste se dire « Ah, oh, ben j'achète local, je les encourage », puis souvent, c'est des produits qui ont peut-être moins d'agents de consommation ou autres parce qu'ils n'ont pas eu à voyager, à traverser des continents, mais c'est aussi de se dire qu'à long terme, ça contribue à garder du pouvoir sur les prix.
Exactement. Exactement. Okay. Nous pouvons encourager vraiment notre industrie et avoir plus d'indépendance quant aux variations et fluctuations extérieures. Mm-hmm.
Il y a certaines épiceries qui ont commencé à mettre des étiquettes quand même assez visibles quand on voit que c'est des produits québécois. Mm-hmm. Quelque chose que j'ai quand même bien aimé.
Mm-hmm. Moi aussi, lorsqu'on produit
parfois... Si jamais l'oligopole nous écoute aujourd'hui.
Oui, c'est une très bonne idée de vraiment dire aux consommateurs, ça, c'est des produits de chez nous, si on les encourage, on encourage aussi un peu notre indépendance, puis on fortifie notre indépendance alimentaire.
Super!
Puis le quatrième, on a déjà un peu parlé de ça, évidemment, c'est vraiment d'accroître le niveau de concurrence dans le marché. Nous devons vraiment faire de l'effort pour... le Canada n'a pas plus de joueurs internationaux. Nous devrions être en mesure de les attirer vers nous, de les rendre plus... de rendre le marché plus attractif.
Okay.
Nous devons aussi regarder les pratiques anti-concurrentielles qu'ils font. Parfois, c'est pas très clair. Comme on avait dit, le bureau de la concurrence aime ça regarder... Loblaws va acheter un nouveau compétiteur, mais ils ne vont pas vraiment regarder comment est-ce qu'eux vont gérer ou forcer
les ententes à la verticale.
Exactement. Il faut vraiment toucher à ça pour que tout le monde, Loblaws et le petit épicier qui a sa petite épicerie au coin de chez nous, puisse avoir accès aux mêmes produits au même prix.
Parce que, est-ce que ce serait un scénario fou de dire que, par exemple, une grande marque d'épicerie, une grande bannière d'épicerie, ferait une entente avec un fournisseur et dit « ce n'est qu'à moi que tu fournis ». Et là, ça bloque les plus petites bannières.
Oui, exactement. Okay. Ce qu'ils font surtout, c'est si ils leur disent, par exemple, « vous voulez avoir accès à ma part du marché, vous devez me vendre à un prix réduit ».
OK.
Et c'est là où ils font aussi les profits, eux, parce qu'ils ont un approvisionnement moins cher que les petites épiceries.
OK.
Exactement.
Fait que je comprends que c'est vraiment un travail d'équipe, que les bannières doivent être plus diversifiées, on doit avoir une plus grande concurrence à ce niveau-là, mais aussi au niveau des fournisseurs, il faut que ça se rende partout. Parce que même si c'est full diversifié au niveau des bannières, si ça passe tout par le même canal, S'ils bloquent ce canal-là, on est encore un petit peu...
Exactement.
C'est encore problématique pour la chaîne d'approvisionnement.
Exactement, c'est vraiment...
Fait que c'est d'avoir une diversification beaucoup plus, là, en général, dans le marché de l'alimentation.
Exactement, c'est vraiment de nous asseoir tous ensemble et dire comment est-ce qu'on peut avoir plus de concurrence et concurrence plus juste. Exactement, pour que tout le monde puisse jouer avec les mêmes règles de jeu.
Ben, c'était très pertinent. Merci énormément, Carlos. Au plaisir de te revoir. Merci aux auditeurs également. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à aller sur le site de Options Consommateurs, options-consommateurs.org, dans la section « Nous joindre ». Et je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée. À la prochaine.